les jardinières.
Le mois de juin est lancé, l'été arrive, bientôt les grandes récoltes au jardin. Mais avant, il faut encore bien s'occuper de vos potagers. Les jardinières sont donc là pour vous aider. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à tout le monde.
Bonjour Philippe.
Bonjour Mylène, bonjour Raphaël.
Philippe Detra, vous êtes horticulteur bio et propriétaire du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Jusqu'à 8h, vous nous parlerez arrosage et vous allez également répondre aux questions de nos auditeurs.
Alors, je vous propose ce matin d'enfiler les bottes pour nous rejoindre chez les jardinières. C'est parti pour une heure.
7h. 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, nous parlerons arrosage, mais avant de sortir les tuyaux et les arrosoirs, dites-nous Philippe, que faire au potager ce week-end ?
Alors, sûrement pas l'arrosage, parce que je crois qu'il est...
Il est automatique.
Il a été automatique dès hier soir. Franchement, comme je l'ai déjà eu dit il y a quelques fois, lorsque le sol est détrempé, ce qui risque d'être le cas aujourd'hui, on ne va rien faire du tout parce qu'on risque plutôt de tasser le sol et d'empêcher les racines des plantes de respirer par la suite.
Est-ce qu'on peut quand même, par exemple, imaginer s'occuper de ces plantes en pot qui ne sont pas détrempées ?
Oui, alors les plantes en pot, bien sûr, sur les balcons, en appartement, ça, ce n'est pas un souci, puisqu'en principe, en appartement, y a pas, l'orage n'a pas fait son effet. Mais à l'extérieur, ça, c'est évident, on ne va rien toucher aujourd'hui.
On fait une journée de break donc au jardin. Merci Philippe. Les jardinières, c'est votre émission. Et vous le savez, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre professionnel. Vous pouvez le faire par téléphone avec la chance de lui parler en direct. Vous composez le 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également nous contacter par SMS. Il suffit de taper jardin, un espace, votre question. Vous nous l'envoyez au 939. Ou la troisième solution, c'est par le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières et là vous pouvez même y joindre une photo.
On se retrouve dans quelques minutes pour parler arrosage, comment bien hydrater son potager pour le voir grandir sereinement.
7h, 8h, les jardinières.
Dans cette première partie des jardinières, nous allons parler arrosage du potager. Tout d'abord, il faut savoir qu'un excès d'eau entraîne des maladies et favorise les attaques des parasites. Et qu'à l'inverse, un manque d'eau altère la bonne croissance de la plante. Philippe, la grande question que tout jardinier se pose un jour ou l'autre, quand faut-il arroser son jardin ? Je parle de l'été, bien sûr. Plutôt le matin ou plutôt le soir ?
Alors, en été, moi, je vais plutôt privilégier le soir. Parce que la plante va profiter de l'humidité pendant toute la nuit et elle sera en pleine forme le matin. Maintenant, hors de l'été, c'est-à-dire au printemps, en automne, je vais plutôt privilégier le matin pour éviter que le feuillage soit mouillé encore le soir.
Est-ce que c'est la même réflexion quand on veut arroser son herbe devant sa terrasse pour pas qu'elle devienne jaune ?
Vous parlez de quelle herbe ?
Un gazon, de l'herbe. Alors, j'ai devant ma terrasse, je vous l'avoue, j'ai devant ma terrasse un petit bout d'herbe.
Ça s'appelle
vraiment
du gazon.
Oui, mais c'est pas vraiment du gazon, c'est de l'herbe. Quoi.
Alors, c'est tout à fait le même principe. Ouais. Et en été, on va de toute façon éviter d'arroser, si possible, en pleine journée, quand il fait très chaud, puisqu'on risque d'avoir des brûlures sur les feuilles, quoique nous le faisons, nous, dans les cultures. Et puis, j'ai jamais remarqué de brûlures.
Ok, merci beaucoup Philippe. Pour déterminer la quantité d'eau à donner à une plante, plusieurs facteurs sont à prendre en compte, notamment son état végétatif, la saison et la météo. Donc là, les plantons sont en pleine croissance, il commence à faire chaud et la pluie n'est jamais très là, on le voit ce matin. On arrose ou on n'arrose pas ?
C'est compliqué parce que comme je l'aime le dire à mes élèves et à mes apprentis, l'arrosage, c'est le job le plus compliqué à faire dans notre métier. Parce que chaque jour est différent, chaque saison est différente et chaque plante est différente. Mes apprentis se sont fait avoir encore hier matin. C'est encore assez humide le matin à 7h, c'est bon. Sauf que ils avaient oublié que c'était peut-être un petit peu l'arrosé, que c'était déposé, mais les plantes avaient soif, mais ça ne se voyait pas. Donc je pencherai toujours pour ma petite technique assez simple, c'est le doigt. Vous plantez le doigt et Si vous ressentez beaucoup d'humidité, vous ne donnez rien. Si vous ressentez un peu de sec, vous vous arrosez.
Il y a aussi les signes de déshydratation qui sont importants. On peut les reconnaître. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, Philippe, sur une plante ?
Oui, ben alors des feuilles qui font triste mine, qui se penchent, qui fanent, ou un petit peu de voilà, et puis au niveau supérieur, ben ça sera peut-être supérieur de gravité, ben ça sera des feuilles qui jaunissent. Donc là, il y aura peut-être aussi un manque de nutriments.
Et puis la question aussi que beaucoup de gens doivent se poser, c'est quelle eau on utilise pour arroser son potager ?
Alors, la meilleure, c'est bien évidemment l'eau de pluie.
Bah là, il y en a, c'est bon ce matin, voilà. Tout va bien.
Ça, c'est bon. Le robinet, c'est en principe bon, même si on n'est pas sûr qu'elle soit propre. Voilà, mais en principe, on peut boire l'eau du robinet, c'est vrai. L'eau de source, éventuellement, mais il faudrait savoir d'où viennent les sources, et puis peut-être faire une petite analyse une fois. À mon avis, c'est les trois possibilités d'arroser.
Philippe, vous disiez on peut boire l'eau du robinet. Nous, on le sait, l'eau, elle est souvent calcaire dans nos régions. Est-ce qu'il faut faire plus attention à de l'eau calcaire pour les plantes
uniquement,
ou pour le potager ?
Oui, non, pas pour le potager. Mais uniquement pour les plantes qui vivent en milieu acide, genre rhododendron, bruyère, toutes les myrtilles et autres. Ces plantes-là vivent dans des milieux acides, et donc si on les arrose avec de l'eau calcaire, ça va rendre basique le sol, et puis elles vont devenir toutes jaunes parce qu'elles n'aiment pas.
Merci Philippe. Voyons maintenant comment arroser nos potagers. Il existe plusieurs manières de faire. Alors le traditionnel arrosoir, le tuyau ou encore l'arrosage automatique. Est-ce que, rapidement Philippe, une méthode est meilleure qu'une autre ?
Alors, vous parlez d'arrosoir. Ben évidemment, si le potager n'est pas trop grand et puis qu'on a une récupération d'eau de pluie, ben c'est idéal. Ensuite, le robinet, ben c'est la solution la plus simple, mais il faut des tuyaux. Et puis, la solution, disons, un petit peu plus compliquée, mais la meilleure, ça serait du goutte à goutte. C'est-à-dire une installation de tuyaux. Et lorsqu'on arrose, on ouvre le robinet. On peut mettre ça sur une minuterie qui n'est pas automatique, hein, faut quand même la mettre en route. Elle va s'arrêter toute seule. Et puis, l'avantage, c'est que l'eau va arriver directement au pied des plantes et il n'y aura pas de perte par évaporation.
Merci beaucoup, Philippe. On continue de parler arrosage dans quelques instants dans les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Philippe Detra, nous nous occupons d'arroser votre potager. Mais il n'y a pas que les plantes en pleine terre qui ont besoin d'eau. C'est en pot également. Alors Philippe, est-ce que l'arrosage de végétaux dans un bac ou un pot se fait de la même manière qu'en pleine terre ? Donc je pense, est-ce qu'on met l'eau de la plante dans le bac ou dans le, comment on appelle ça, la soupe-tasse ?
Alors, la soucoupe.
S'il y en a une, oui.
La soucoupe. Donc s'il y a des soucoupes et que la motte de la plante est sèche, il faut quand même donner un petit peu d'eau sur la motte pour humidifier la motte. Si vous mettez de l'eau que dans la soucoupe, le risque c'est que la motte qui est sèche ne pompe pas l'eau par imbibition. Donc il faut quand même un petit peu humidifier le dessus de la terre pour humidifier la motte et ensuite on peut mettre de l'eau dans la soucoupe si vous voulez. C'est plus simple à gérer, parce que quand on met trop d'eau sur la motte, eh bien, ça risque de faire déborder dans la soucoupe par la suite.
Merci beaucoup Philippe, on le sait, hein, avec le réchauffement climatique en été, on peut atteindre des chaleurs qui deviennent assez extrêmes. Et donc du coup, l'eau peut se faire rare par endroits. Comment faire pour garder un potager sain malgré le manque d'eau ?
Arroser.
Oui, mais, quand il n'y a quasiment plus d'eau, est-ce qu'on arrose un petit peu moins et comment on trouve l'équilibre ?
Est-ce qu'on peut garder un potager humide, par exemple ? Est-ce qu'il y a une technique, je pense, au paillage ? On pourrait pailler maintenant, ça lui ferait du bien ?
Oui, c'est une bonne idée, effectivement. Ça garde l'humidité du sol de pailler. Donc, le paillage vient du mot paille. Et on peut utiliser, avant, on utilisait de la paille. Maintenant, on peut utiliser éventuellement d'autres moyens, comme c'est pas terrible. Mais c'est du plastique perforé qui va éviter à la terre de perdre son eau par évaporation.
Est-ce qu'on peut aussi utiliser le gazon qu'on a coupé ?
Tout à fait, ça, c'est juste pas très jojo parce que ça va faire une espèce de croûte brunâtre mais qui a tout à fait un bon effet. Il y a aussi les les déchets de fèves de cacao qui ont le même effet absolument et qui ont l'avantage de sentir bon dans le jardin, pas très longtemps, mais ça fait une croûte aussi.
On parle d'été, donc on parle également de vacances. Philippe, comment on fait si on part quelques jours pour ne pas retrouver son potager tout sec à son retour?
Ouais, alors, il faut éviter de partir pour commencer. Maintenant, pour le potager, ouais, c'est vrai que c'est, justement, si c'est paillé et qu'on arrose bien avant de partir, ça va pouvoir conserver l'humidité un moment. Maintenant, il faut s'intéresser à la météo peut-être aussi. Et ouais, pour le potager, c'est quand même compliqué. Surtout, bien que si les plantes sont en pleine terre, elles résistent beaucoup mieux que si elles sont en bac.
Merci beaucoup Philippe. Dans les jardinières, la suite, on va répondre à toutes vos questions. J'en profite très rapidement pour vous rappeler comment nous contacter. 0901 70 20 20 par téléphone. Vous pouvez le faire par message en nous envoyant un SMS. Vous envoyez jardin, un espace, votre question au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site. On se dit à tout de suite.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Un professionnel est là pour vous et répond à vos questions. Ce matin, c'est Philippe Detra qui est en notre compagnie. Philippe est horticulteur bio et propriétaire du Jardin des Senteurs à Neuchâtel.
Et vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez nous contacter par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question que vous nous envoyez au 939. Vous pouvez également passer par le formulaire avec la possibilité de joindre une photo. Ça se passe sur notre site internet sous l'onglet émission. Question aux jardinières, et la dernière possibilité, celle qu'on adore, c'est de composer tout simplement le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, comme l'a fait Mylène Christine qui est avec nous ce matin. Bonjour Christine.
Bonjour Christine. Oui,
bonjour. Bonjour. Votre question pour Philippe.
Alors moi j'ai deux questions. La première, c'est suite aux orages qu'on a eu jeudi, on a notre jardin qui a été dévasté par l'orage. Maintenant, je voulais savoir si je peux remettre des pommes de terre un peu, si je peux remettre mes oignons, tout ça, ou si c'est trop tard.
Oui, il n'y a pas de problème. En principe, vous pouvez encore les planter.
Bon, il faut attendre que ça sèche, parce que les détremper, les détremper.
Effectivement, il faut attendre que le sol soit un petit peu ressuyé, comme on dit.
Je peux tout remettre sans autre. On récolte un peu plus tard.
Oui, voilà. oui, tout à fait.
Il n'y a pas de problème.
Non,
alors,
je ne pense pas qu'il y ait un problème.
J'ai une autre question par rapport à des larves de hanneton. Ah. J'ai une place de fraisier qui en est vraiment envahie. Hein. J'ai enlevé entre 200 et 300 larves.
Ouais.
Maintenant, j'ai dû déplanter mes fraisiers parce que j'ai vu qu'ils périssaient.
Ouais.
Une fois que ça sera traité et tout ça, je peux remettre ou bien il faudra que je fasse chaque année.
Qu'est-ce que vous appelez traité?
Ben écoutez, je suis allée voir dans une jardinerie et puis ils m'ont envoyé un petit papier que j'ai dû commander pour traiter.
Vous avez acheté des nématodes?
Exactement.
Ouais. C'est une façon de pratiquer qui est quand même un peu onéreuse, c'est vrai, mais il n'y a plus beaucoup d'autres solutions. Hein, les insecticides, et moi-même, je ne vais pas vous prôner des insecticides étant en bio. Les insecticides contre ces bestioles n'existent quasiment plus. Donc, c'est une des méthodes. Maintenant, sur un site qui s'appelle Biogarten. Il est en Suisse allemande, donc on ne va pas faire de concurrence au Suisse romand. Il est en français. Vous pouvez trouver aussi d'autres méthodes de lutte en tapant le nom du parasite. Et vous aurez plusieurs solutions. Il existe aussi des champignons qui s'attaquent à ces larves.
Puis une fois que j'aurai fait ça, je peux les replanter ou bien je peux les remettre, mais ils sont fichus mes fraisiers.
Non, les fraisiers, ça dépend de l'état des racines. Si elles ont tout boulotté, c'est clair que s'il n'y a plus de racines, il n'y a plus de plantes. Voilà. Mais j'ai fait un petit interview avant-hier avec une collègue de RTN et qui justement traitait de ce sujet, mais je ne sais pas quand ça va passer.
Je ne sais pas non plus.
Surprise, il faut rester à l'écoute.
J'ai enlevé entre 200 et 300 bestioles.
Et puis c'est cyclique. C'est tous les 2-3 ans, je crois. Parce que ces larves vivent dans le sol pendant 2 à 3 ans avant de devenir ces espèces de bestioles qui volent comme si elles étaient bourrées.
Mais qui sont très jolies.
Oui, c'est très beau. Ça ne vous a pas ailleurs que chez soi. C'est très
ça,
beau,
exactement.
Merci bien alors.
Merci Christine, une belle journée à vous. Merci,
au revoir. J'espère que vous aurez quand même de belles fraises. Philippe, avant la pause musicale, je vous propose de répondre à une question que nous avons reçue cette semaine via formulaire avec une photo jointe. C'est une photo avec des buis. C'est Josiane Darus qui vous pose la question. Bonjour, j'ai des buis en pot qui deviennent blancs. Que faire ? Et puis elle nous dit merci pour notre émission. Meilleure salutation. Alors sur la photo, on ne voit pas très très bien, mais c'est vrai que certaines feuilles de ce buis sont blanchâtres.
Oui, j'ai un petit peu de la peine à distinguer aussi de quoi il s'agit. Alors, comme ça, a priori, j'aurais pensé à de l'oïdium, qui est une maladie, mais je n'ai jamais vu d'oïdium sur du buis. Bah, maintenant, je ne suis pas un spécialiste du buis. Il y a aussi une autre maladie qui fait du blanc, c'est du cylindrocladium. C'est une maladie, un champignon aussi, qui se développe, mais plutôt sous les feuilles. Voilà, donc là, on ne voit pas le dessous des feuilles, je ne peux pas dire. Moi, je conseillerais à cette dame, qui habite pas très loin d'une pépinière, à Colombier, de prendre des petits morceaux de ce buis et d'aller voir sur place, parce qu'il n'y a jamais mieux que d'avoir un petit rameau pour voir de quoi il s'agit exactement.
7h, 8h, Les Jardinières.
Les Jardinières, c'est votre émission Jardinage du samedi matin. On répond à vos questions. Enfin, c'est surtout Philippe Détra qui s'y colle ce matin. Et les téléphones sonnent beaucoup.
Il pleut des téléphones ce matin.
Raphaël, vous avez une personne en ligne avec une question.
Exactement. On accueille dans Les Jardinières Jean-Pierre qui a composé le 0900 70 20 20. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour. Votre question pour Philippe.
J'ai en fait deux questions. La toute première, j'ai acheté chez un jardinier des racines rouges à piquer. C'est dans ces petits godets carrés. Et puis, il y en a deux, il y en a souvent même trois dans le même replant. Ouais. On m'a dit au jardinier, ah, pas de problème, vous les plantez comme ça. Puis je me suis dit, après les avoir plantées, comment elles vont se développer, si elles sont 3-4 ensemble. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut que j'en retire dans chaque godet une ou deux pour en laisser une, ou bien je peux laisser comme ça?
Alors, d'abord, une petite explication. Tout ce qui est betterave et bêta-côte sont des graines multigermes. Donc, c'est parfaitement normal qu'il y ait deux ou trois germes qui germent. Lorsqu'on a l'impression de semer qu'une seule graine, en fait, il y a plusieurs germes. C'est normal. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour la culture de la betterave, ce serait effectivement une bonne chose, je pense, d'en enlever deux pour qu'il en reste qu'une, quoi. Vous enlevez les plus petites.
Et puis, celles que j'enlève, je peux les repiquer ou je dois les jeter?
Alors, si elles ont des racines, moi, je me suis jamais amusé à ça. Je suis désolé, mais j'en cultive pas moi-même. J'ai horreur de ce légume. Voilà. Mais vous pouvez, s'il y a des racines, vous pouvez les repiquer. Effectivement.
OK. Alors, merci. Et deuxième question. J'ai des côtes de bêtes aussi du jardinier. Et puis, au centre, il est venu plein de fourmis. Alors, j'ai mis autour des pieds de côtes de bêtes de la poudre fourmi parce que je voulais rien mettre sur les feuilles. Est-ce que ceci, ça va prétériter le développement de mes côtes de bêtes ou je dois remplacer les bêtes?
Alors, j'ai pas compris ce que vous avez mis dessus.
Ah, j'ai mis autour de la côte de bête, j'ai mis de la poudre pour éloigner les fourmis.
Ok.
Donc, alors, je ne sais pas si ces fourmis étant au centre de mes côtes de bête, est-ce que ça veut empêcher le développement?
Oui, alors elles gênent un petit peu les plantes, les fourmis, mais elles ne vont pas faire de mal à la bête. Maintenant, la poudre que vous avez mise, je ne sais pas si c'est un insecticide sous forme de poudre.
Non, c'est une anti-fourmi, quoi. Poudrage anti-fourmi, mais j'ai mis autour, j'ai pas voulu mettre sur la feuille, parce que j'aime pas ce qui est chimique, quoi.
Ouais. Vous pouvez mettre du marc de café, si vous buvez des cafés, vous récupérez le marc. Ça, c'est répulsif contre les fourmis.
Oui, d'accord.
Mais je crois pas que les fourmis vont faire du mal aux plantes. Ce qu'elles vont faire, c'est un petit peu enquiquiner les racines, quoi.
Ok, alors, mais c'est bon, j'ai tout compris.
Eh ben super Jean-Pierre, merci pour votre appel.
Merci de m'avoir répondu. Hein.
Tout bon week-end à vous, merci Jean-Pierre.
Et on va enchaîner directement, Raphaël, avec une seconde question par téléphone qui nous vient de Roméo.
Exactement, bonjour Roméo.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Votre question pour Philippe Détra.
Alors, puisqu'on parlait d'arrosage tout à l'heure, j'ai acheté l'automne passé une citerne pour récupérer l'eau de pluie. Alors, jusque-là, tout s'est bien passé, la citerne s'est remplie, et puis on a que, depuis quelques jours, l'eau est devenue rouge. Alors, c'est un voisin qui m'a dit que ça pouvait être une algue.
Une algue, oui.
Est-ce que je peux continuer d'arroser mes plantes, mes légumes, avec cette eau-là?
Alors, à mon avis, oui, probablement. Ce n'est pas des algues qui sont néfastes, me semble-t-il. Ouais, c'est naturel. C'est naturel.
C'est naturel.
Et je ne pense pas que les algues vont s'attaquer à vos plantes de potager.
Uh-huh.
Mais c'est vrai aussi que je vous dis ça comme ça, instinctivement, mais sans connaissance absolue.
Mm-hmm. Idéalement, Philippe, pour Roméo, est-ce qu'il devrait peut-être prendre un échantillon, un gobelet de son eau, peut-être pour aller la faire, pour la montrer à un professionnel, idéalement?
Ouais, mais ça va être, il y a personne qui va pouvoir vous répondre comme ça. Il n'y a pas de jardinier qui va vous répondre différemment que moi, je pense. Non, peut-être utiliser une méthode un petit peu plus simple. Prendre de cette eau, vous arrosez quelques plantes de votre potager, puis vous regardez ce qui se passe.
Uh-huh.
Et puis, s'il ne se passe rien, c'est que manifestement, ça joue.
Oui, d'accord.
Alors, on va essayer ça. Plus de peur que de mal, donc, Roméo.
Oui, parce que évidemment, si je dois vider les 1000 litres qui sont dans la citerne maintenant,
ça serait dommage.
Ouais, c'est dommage.
Ça serait dommage, oui.
Merci beaucoup, Roméo, pour votre appel. Et puis, on espère que vous aurez des beaux légumes d'ici quelques semaines.
Voilà. Ah ben, voilà, j'ai justement encore une toute petite question.
Alors, très rapidement, Roméo.
Oui, j'ai un plant de rhubarbe qui, les feuilles sont devenues brun-jaune.
Ouais.
Est-ce qu'elle est encore consommable?
Je pense pas.
Ah.
Je pense pas. La rhubarbe, ça se consomme lorsque les feuilles sont bien en croissance et bien vertes. Ouais. Maintenant, je pense pas que vous risquez grand-chose. Ce sera peut-être juste moins bon.
Ah, d'accord.
Bon, okay. Roméo, au résumé, on garde l'eau et la rhubarbe, on se méfie. Merci beaucoup, Roméo.
Salut, merci.
Bon week-end, au revoir.
7h, 8h, les jardinières.
Et durant la pause musicale, Philippe, vous avez fait quelques recherches par rapport à cette citerne d'eau dont vient de nous parler, si je ne me trompe pas...
Roméo,
voilà, merci. Dont son eau devenait rouge. Vous avez fait quelques recherches pour l'aider.
Oui. Donc, ces algues peuvent se manifester lorsque la citerne, par exemple, est transparente. Il faudrait éviter les UV. Au niveau de nocivité, alors j'ai rien trouvé. Par contre, si c'est de l'eau de pluie, ce qui serait peut-être plus nocif, c'est les crottes d'oiseaux qui sont sur les toits et qui partent avec la pluie. Mais au niveau de l'arrosage du potager, il n'y a pas de souci. J'éviterai de la boire, c'est tout.
Merci Philippe pour ces précisions. Ce matin, on a donc parlé arrosage. Si vous avez manqué cette première partie d'émission, vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site tout à l'heure en cours de matinée. Et avant de clore cette émission, Philippe, nous sommes à quelques semaines de l'été. Que peut-on encore semer au potager?
Oh, passablement de choses encore. D'autant plus si on habite plutôt dans les hauteurs, par exemple dans les franges, tout commence. Ça commence maintenant. Donc les radis, les carottes, des salades à tendre, des choux, des laitues paumées. Non, il y a encore un chouette assortiment de légumes que l'on peut semer. J'ai pas la liste sous le nez, mais on peut semer encore beaucoup de choses.
Il y a du boulot.
Il y a encore du boulot. Merci en tout cas, Philippe, d'avoir été en notre compagnie ce matin. On rappelle que vous êtes horticulteur bio et propriétaire du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. On vous souhaite déjà un bel été, Philippe, et on vous dit à tout bientôt dans les jardinières.
Parfait, merci beaucoup, je vous souhaite la même chose.
Merci Philippe. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Et c'est Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, qui répondra à vos questions jardinage. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en tout temps via notre formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières ou alors par SMS en tapant jardin, un espace et votre question. Et puis il suffit d'envoyer ce message au 939. Merci de nous avoir suivi ce matin. Et à samedi prochain, bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène et bon week-end à tout le monde.
Et bon week-end à toutes et à tous et prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.